Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, ou l'agriculture racontée par ceux qui la font. Pour entamer cette deuxième saison des Paroles Rurales, nous nous rendons dans l'atelier de transformation encore en construction de Guillen, apiculteur basé à Camarès. Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Salut, je m'appelle Guillaume, je suis apiculteur dans le sud d'Aveyron, sur le secteur de Camarès.
D'accord, sur la commune de Camarès.
Oui.
Oui, sachant que l'apiculture, tu as des ruches un peu partout, j'imagine.
Alors, elles sont toute la période hivernale au-dessus de Camarès, sur le Dourdou, Sylvanès, Fayette.
Ouais.
Ça me permet de les avoir tout prêts pour les traitements, les nourrissements aux besoins. Et ensuite, je transhume selon les floraisons et selon les années, différents types de cultures, sur différents types de cultures. Tournesol, colza, cette année, j'ai essayé de faire du miel du Larzac.
Ça fait combien de temps que tu es apiculteur ?
Que je suis apiculteur ? Alors, je suis cotisant solidaire, donc je ne suis pas chef d'exploitation. Hein ? Ça fait 11 ans ou 10 ans que je suis apiculteur. Je n'étais pas déclaré au départ, c'est-à-dire que c'était ma compagne de l'époque qui était cotisante solidaire. Mmh. Et on bossait à deux. Mmh. Et on ne dégageait pas un chiffre d'affaires, un revenu suffisant pour être tous les deux déclarés.
Et pourquoi l'apiculture ?
C'est une bonne question. Ah. C'est un pur hasard dans ma vie.
D'accord. Ça t'est tombé dessus quand t'étais petit ?
Ça m'est exactement tombé dessus.
C'était le choix de ton ex-compagne, en fait, que tu as suivi ?
Non, au tout départ, je ne connaissais pas encore mon compagne. En fait, on visitait le château de Saint-Isère un mois de juillet ou un mois de mai, je ne me souviens plus trop, entre mai et juillet. Et on visitait le château de Saint-Isère pour organiser le premier festival de blues de Polisson, de l'association Polisson. Et en visitant avec un conseiller municipal le château, à ce moment-là, il y a un essaim qui est sorti d'un essaim implanté dans la muraille du château, qui est sorti et qui s'est installé sur un arbre dans la cour. Et j'ai dit à l'employé municipal, ah ben j'ai un voisin moi qui sait ramasser les essaims, parce qu'ils avaient ça au milieu de la cour avec des gens qui passent, qui visitent et tout. Pas forcément évident. Ouais. Il m'a dit, ok, ben appelle ton pote. J'ai appelé ce voisin qui ramasse des essaims. Et le soir, quand il partait ramasser cet essaim, il est passé devant la maison, il m'a dit « Ah, mais viens avec moi, tu verras, c'est intéressant et tout », donc je pars avec lui. Et en fait, bon, ça a duré une heure et demie, un moment vraiment magique, le fait de voir rentrer un essaim dans une ruche et tout, c'est vraiment quelque chose de fou, c'est vraiment à voir. Ouais. Et je lui posais plein de questions, et quand on rentrait vers chez lui pour aller poser cet essaim avec ses autres ruches qu'il avait dans son verger, il m'a dit « Écoute, moi, ce que je te propose, t'as l'air vraiment intéressé par ça », il m'a dit « Là, je le stabilise, je le mets un mois chez moi, je le soigne, je vérifie qu'il y a bien une reine en ponte. Et dans un mois, cet essaim, il est à toi. Et si tu as envie, tu démarres d'avoir une ruche. »
D'accord.
Et ça a démarré comme ça. Ça m'a beaucoup plu. Et de fil en aiguille, 5, 10. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, au-delà d'un truc qui est chouette pour faire un peu de miel, ben tiens, on va essayer d'en faire 3 sous.
Donc, il t'a refilé le bébé, quoi.
Voilà.
Et depuis, tu es devenu le papa des abeilles.
C'est ça.
Toi, tu as grandi dans le milieu agricole ? Tu es venu naturellement ou pas du tout ?
Alors, j'ai complètement grandi dans le milieu agricole. Mes parents, mon père et ma mère étaient en brebis laitière au Vinlay pour Roquefort. Mmh. Et oui, donc j'étais complètement baigné à la campagne et dans le milieu agricole.
Et c'était ton premier choix d'être agriculteur ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai jamais su trop qu'est-ce que j'allais faire. J'étais parti faire des études à Toulouse, et puis à un moment, j'en avais marre, je n'y voyais pas de sens. Et
tu faisais des études de quoi ?
Sociologie et économie.
T'as poussé loin ?
Oh non, licence.
Ouais, c'est déjà bien. Hein.
Oui, c'est déjà bien. Mmh. Mais ouais, et puis au bout d'un moment, on était plusieurs copains, copines à se dire, bah, en fait, ça aurait du sens qu'on vive à la campagne, peut-être à plusieurs, pour découvrir des savoirs et partager des choses, parce que ça nous semblait beaucoup moins anonyme, la campagne, beaucoup plus beau comme forme de vie.
Quand tu es apiculteur, tu es obligé d'avoir une ferme ou tu n'es pas obligé ?
Ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire que tu n'as pas d'exploitation, à vrai dire.
Eh bien, non, du coup, moi, j'ai pas repris...
Tu n'as pas de terre ?
J'ai pas de terre, ouais. À part aujourd'hui où, là, où j'ai acheté un bout de terrain et tout. Mais pendant... En fait, j'ai pas repris la ferme de mes parents. Alors que c'était à un moment, j'ai failli la reprendre. Je me suis lancé en BPREA au Vinlay. Et à la fin du PPRA, j'ai dit, ben, je ne reprendrai pas la ferme en Auvergne, parce qu'à ce moment-là, c'est là aussi que ma passion de l'apiculture grandissait.
D'accord.
Et du coup, l'un dans l'autre, j'ai fait ce choix-là. Et donc, j'ai pas repris les terres, la ferme de mon père a été reprise. Et quoi, du coup, non, moi, j'ai pas de terre. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand je mets des ruches à un endroit, ou quand il y a un endroit qui me plaît, je vais à la rencontre des propriétaires dès que quand je vois qui c'est. Quand je vois pas qui c'est, je vais vers la commune et je consulte le cadastre, ce qui me permet d'aller vers les propriétaires et je leur... C'est un espèce de troc, quoi. En échange d'avoir un emplacement de ruche, je leur donne du miel, quoi. C'est D'accord. ce qui se fait la plupart du temps en apiculture. Quelquefois, c'est de la rémunération, mais c'est plutôt rare. Enfin, sauf quand c'est des institutions comme l'ONF ou des choses comme ça, quoi.
Et au jour d'aujourd'hui, tu as combien de ruches ?
Là, en ce moment, je dois avoir 115 ou 120 ruches avec rennes en ponte.
Ça représente à peu près combien d'individus ? Il y a combien d'abeilles par ruche ?
Eh ben, tu fais sur une ruche un peu forte, entre 40 000 et 60 000 abeilles. Et du coup, ouais, ça fait du monde.
Et donc, tu les connais toutes, tes abeilles ?
Ouais.
Elles ont toutes un prénom,
j'imagine ? Oui, évidemment. Et un code-barre.
Un code-barre. Elles sont pucées, peut-être ?
C'est ça.
Est-ce que tu en vis bien aujourd'hui, de l'apiculture ?
Ça dépend des années.
Ah, ça dépend d'un
Il y a clairement des années où je suis pas si mal, c'est-à-dire si on suppose et qu'on juge que vivre à la campagne avec un petit SMIC ou un truc comme ça, vu les dépenses qu'on a, qu'on désire pas vivre avec des 1000 et des 100, c'est plutôt cool. Et puis il y a des années où concrètement je demande le RSA, quoi. Sur certaines périodes de l'année.
Ça suffit pas, quoi.
Ou alors d'aller bosser à côté, quoi, en plus.
Et comment est-ce que tu vends ton miel ? Comment tu l'écoules ?
Quasiment tout le temps, vente direct sur le marché ou chez moi. Et puis les bonnes années, Biocoop de Sainte-Afrique, deux, trois petits magasins.
Sur le marché de Sainte-Afrique, tu vends ?
Ouais, marché de Sainte-Afrique.
Uniquement celui-là ? Et ça suffit ?
Uniquement celui-là, ouais.
Et t'as une clientèle fidèle ?
Ouais.
Ouais ?
Ouais, et puis sur les moments de... Enfin, il y a un peu plus sur les moments de tourisme.
Ouais. Le rapport avec la clientèle, ça te plaît ?
Ouais, à fond.
Ah ouais.
Ouais, moi le marché de Sainte-Afrique, enfin le rapport à la clientèle ou même plutôt la convivialité du marché, c'est
avec les autres.
C'est quelque chose que je louperais pour rien au monde. Quoi.
Ah ouais.
Ah ouais, c'est.
Hiver comme été, même s'il pleut, il
va. Ouais, ouais, c'est vraiment un moment très très agréable.
Ouais. Et donc ici, on est dans ton futur atelier. Donc un atelier, ça sert à mettre en pot. Qu'est-ce que tu vas y faire ici en fait ?
Eh ben l'atelier, comme tu as vu, là, il est divisé en trois pièces. La première pièce, celle dans laquelle on est, là, ce sera la salle dans laquelle je ramène les hausses juste après avoir récolté.
Tu ramènes les ?
Les hausses.
Les hausses,
je te montrerai, c'est la partie qu'on rajoute au-dessus de la ruche dans laquelle les abeilles font le surplus de miel que nous, apiculteurs, on vient récolter. Quoi. Et donc les hausses, je les entrepose ici avec des humidificateurs. Si mon taux d'humidité est trop faible, par rapport à, enfin, parce qu'elles n'ont pas encore assez concentré ou que, bon, bref, passons cela, je laisse deux jours, par exemple, je vais avoir un taux d'humidité qui va baisser dans le miel. Sinon, s'il est très bien, le miel, je passe directement le lendemain, après avoir récolté, je commence à extraire dans la pièce qui est derrière, la plus grande, où j'installe ma chaîne d'extraction.
D'accord.
C'est-à-dire des operculations, passage en centrifugeuse, maturation dans des fûts, et puis quelques jours après, mise en pot.
Le miel mature avant d'être mis en pot.
Ouais, on le laisse maturer quelques jours avant d'être mis en pot.
Et pourquoi ? Il est...
Eh ben, je ne suis jamais renseigné. Fais ça par pur geste qu'on m'a dit de faire. Et,
d'accord.
Mais moi, ce que j'observe, c'est clairement, ton miel, tu le mets en pot. Je peux te montrer sur des pots. Tu le mets en pot directement après extraction. Ce qui va se passer, c'est que... quelques jours après, tu auras une écume en surface.
Oui.
Alors, je ne sais pas si cette écume, elle résulte de l'émulsion... créé par la force de la centrifugation, qui est quand même un truc qui est puissant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un moteur qui fait tourner très très vite les cadres dans un extracteur. Ou si c'est autre chose, qui crée cette petite mousse, cette écume blanche.
Mmh.
Et du coup, en tout cas, clairement, quand tu laisses 10 jours ton miel maturer en fût, tu as cette écume qui vient bien en surface, que tu peux enlever facilement.
Mmh.
Et après, tu as un miel, quand tu le mets en pot, qui a un aspect esthétique très bien pour la vente.
Ouais. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, que tu n'as pas cet atelier-là, tu extrais ton miel comment ?
Eh ben là-haut, dans une pièce de la maison, de la partie maison, dans
d'accord.
cette pièce, dans laquelle je ne vis pas encore.
Et ça va être farci d'abeille, là,
Non,
ça pègue par terre.
Ça peut payer. En fait, d'extraction, ça pègue un peu. Après, 120 ruches, c'est peu de ruches. Hein.
120, c'est pas beaucoup ?
Non, parce que je pense à ça, parce que tu disais, tiens, ça fait un paquet d'individus, enfin d'abeilles.
Bah oui.
Et non, actuellement, en agriculture, ils considèrent que que la surface minimum d'installation, la 2000 SMI, j'imagine que maintenant c'est en gros ce qui est considéré par le monde agricole ou les institutions agricoles. La 2000 SMI, c'est ce qui est considéré comme étant la quantité de ruches ou d'équivalent ruches ou d'hectares, etc., qu'il faut avoir pour créer un demi-SMIC.
D'accord.
Donc une viabilité, c'est une logique de viabilité d'une ferme. Et du coup, ça, la 2000 SMI, en ruches, dans les départements, c'est peut-être toujours le cas, mais en Aveyron, elle se situe autour de 185 ruches minimum pour la 2000 SMI.
D'accord.
Donc quand tu veux demander une DGA, dotation aux jeunes agriculteurs, tu dois atteindre cette 2000 SMI au minimum pour
avoir les
demander cette aide-là.
D'accord.
Paolo Giano.
vais passer aux questions un peu philosophiques.
Allez.
Allez. ce beau métier d'agriculteur, toi, tu le conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer? Et si oui, tu le mets en garde sur quoi?
Alors là, c'est très très philosophique.
Ah oui. Attends, il y en a une, elle est pire encore. Là.
C'est très philosophique parce que moi, je suis convaincu, si tu parles vraiment de philosophie ou de, je sais pas, de politique, je suis convaincu que la surspécialisation et la spécialisation dans un domaine, en particulier, c'est quelque chose qui n'est pas sain pour l'émancipation, pour ce qu'on est tous ensemble en société, ouais. Entre guillemets, quoi. Et du coup, dire est-ce que je conseille un métier en particulier alors que je considère que c'est chouette de faire plein de choses, même si, comme disait Papy, 30 métiers, 30 misères. Non, à part ça, si je le conseille à quelqu'un, oui, c'est trop beau, de toute façon, ouais. Bosser avec des abeilles, c'est trop bien, quoi. Enfin,
Mais l'agriculture, déjà, il faut avoir moult compétences. T'es pas spécialisé dans une chose. Il faut gérer l'administratif, il faut gérer l'économique, il faut gérer la com.
On n'a pas trop à s'embêter en apiculture.
Tu trouves des clients facilement.
Quand tu vois qu'il y a 40 ans, on produisait plus de miel qu'il n'en était consommé en France. Aujourd'hui, selon les années, on est entre 9000 et 16 000 tonnes de miel, admettons, sur les 6 dernières années en France, et on consomme 40 000 tonnes de miel en France. Du coup, il y a des miels qui rentrent en France qui sont vendus vraiment pas cher, etc. C'est certes une concurrence, mais dans des miels de qualité, des miels de cru, etc., on n'a pas de mal à. Enfin, peut-être les gens qui ont 1500 ruches, ils ont un peu plus de mal à vendre leur miel. Mmh. Ils le vendront en gros, etc.
Mais, ça existe, 1500 ruches?
Ah oui, il y a des apiculteurs qui ont 1500 ruches.
Mais ils ne sont pas tout seuls à gérer ça?
Non, j'imagine qu'ils ont un paquet de salariés.
Sur quoi tu mettras en garde un jeune qui va se lancer?
On va pas trop vite, malheureusement.
Ah, t'avais pas fini de développer.
Non, je sais pas.
Non, je disais va pas trop vite, malheureux, pour la mise en garde. Non, je sais pas. Nous, quand on a commencé, c'était déjà le moment où on parlait déjà beaucoup des taux de mortalité hivernaux sur les ruches. Et en fait, on s'est quand même lancé là-dedans. Donc, tu vois, finalement, c'est peut-être qu'une question de... Enfin, c'est, si t'as le désir, tu vas... Enfin, moi, les années où je perds 40% de ruches, en fait, j'ai les boules, j'ai envie de tout arrêter, tout ça. Mais je sais pas, ouais. Donc, quand je dis va pas trop vite, c'est peut-être pas tout à fait va pas trop vite, mais c'est plutôt... N'y fous pas toutes tes billes, par exemple, ou j'en sais rien. Ouais.
Et alors, puisqu'on en est aux questions philosophiques, c'est ma dernière grande question. Est-ce que t'as une idée, toi, de... Ce que sera, ça fait 11 ans toi que tu fais de l'agriculture, tu l'as vu évoluer, tu as grandi dedans. Est-ce que tu as une idée de ce qu'elle pourrait devenir dans les années à venir, dans 10 ans, dans 20 ans?
Peut-être alors plus sur un point de vue, sur ce qu'elle devait être. Je sais pas, on est dans un monde où on est tout le temps en train de... On a mis en insécurité les gens, parce que je considère en mettant en concurrence les gens dans ce monde-là, là, on a mis en insécurité les gens par cette idée du chômage-là. Et je dis bien cette idée du chômage. Et à la fois, on était une société dans laquelle il y avait une proportion de travailleurs de la terre, de paysans, ou salariés, etc., qui étaient très très nombreux. Et on est passé à, je ne sais pas les chiffres aujourd'hui, mais à très très peu d'agriculteurs et paysans en France. Et tu te dis quand même, en fait, si tu veux penser à un monde où, je sais pas, il y a des gens qui en ont marre d'être en ville, et je les comprends très bien, ou avec un monde où il y a beaucoup de chômeurs et tout, tu te dis, mais en fait, si à un moment, on questionne pas vraiment le fait de pouvoir faire accéder aux campagnes et donc à la terre beaucoup plus de gens, vraiment beaucoup, beaucoup plus de gens, on ne pourra pas tout à fait ne pas remettre en question... ce Saint Graal qui est la propriété privée et l'accaparation des terres est de plus en plus avec des exploitations de plus en plus grosses et tout. Il y a un réel problème là-dedans. Et puis par ailleurs, je sais pas, moi on vit dans le Rougier, enfin tu vois, quand tu viens de Saint-Aff, là, quand tu traverses le Rougier, bon cette année il pleut régulièrement. Mais en fait le Rougier c'est un désert. C'est certes un désert depuis sa géologie, son type de sol, tout ça, mais c'est aussi un désert depuis nos modes culturaux qu'il y a dessus, quoi. Et enfin, moi, j'ai aucune envie de moraliser les agriculteurs, parce que je trouve que c'est un biais qui est très bête de moraliser les gens. Par contre, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas des espèces de questionnements à l'échelle locale, mais avec du monde, pour dire, bon, alors allez, qu'est-ce qu'on fait de ce rouget qui est, avec le réchauffement climatique, avec des pluviométries très très fortes pendant les épisodes 10 et Venol, et que toute la terre part au Dourdou. Enfin, tu as pu en discuter peut-être avec Guillaume, avec Jean-Castou. Ces trucs-là, c'est vraiment, c'est flagrant, c'est choquant. Ben ouais, je sais pas, parlons de replantation de haies, de conservation de l'eau dans le sol, de choses comme ça, quoi. Et je suis passé du truc de genre les gens pourraient venir vivre à la campagne à ce truc de la conservation de l'eau et des sols et tout, parce que je trouve que c'est intimement lié, quoi. C'est vrai, vraiment. À partir du moment où les institutions et où tout un milieu agricole défendra corps et âme, et clairement, là ils ont la loi pour eux, mais défendra corps et âme ce modèle agricole, moi j'ai du mal à croire que, je sais pas, de nouvelles lois et un changement démocratique pourraient permettre un changement de paradigme dans l'agriculture. Et du coup, à un moment, je me dis, mais en fait, je sais pas, est-ce qu'il y aura un jour, il n'y aura pas un mouvement qui dira, ben, on bouge de la ville, et tu vois, des centaines de gens qui disent, là, maintenant, en fait, on occupe ces terres-là, clairement, et contre la loi, avec violence ou dans la non-violence, là n'est pas la question, mais en fait, qui diront, c'est une nécessité vitale, c'est une nécessité de société, quoi, et ça, c'est. Je sais pas si on verra ça ou. Ou s'il faut peut-être promouvoir, ou en tout cas ce truc d'accaparation des terres, et ça va vite être très très problématique. Hein. Ouais. Et plus ils en ont, plus ils les garderont vraiment avec les dents. Quoi.
Bah, la PAC, il contribue beaucoup à ça.
La PAC, il contribue beaucoup. Ouais.
Le jour où ils changeront le système de subventionnement.
Ah ouais, c'est sûr. Oh, la PAC, c'est un hold-up organisé, quoi.
Ouais.
C'est un réel hold-up organisé, quoi. On a décidé après 45, cette société a décidé qu'il fallait nourrir. Et être autosuffisant en nourriture, mais du coup, par un biais qu'ils ont choisi, qui est le modèle chimique de l'agriculture et le modèle ultra-mécanisé. Et c'était sans doute, on ne peut pas jeter la pierre peut-être à cet endroit-là en 1945, au sortir de la guerre, il y avait un certain sens à ça, sauf que ça s'est engouffré dans quelque chose qui est devenu une machine en soi, quoi,
ouais.
qui n'a plus de...
Ok.
Ah, t'es en short, toi.
Ouais, ah, putain, les orties.
Ah,
oh, et oui, j'avais pas anticipé que je venais voir un paysan. Je suis mis dans une claquette et tout, moi. Alors, écoutez, il paraît que c'est bon pour le sang.
Ouais, c'est ça.
Et donc, t'habites ici ?
Non.
D'accord.
Non, pas du tout. Je pense que j'ai pas mal de mois de travaux avant de...
Ouais, à terme, Monsieur
Catastrophe.
Je peux
habiter là,
ouais. D'accord. Donc, on est à la ferme de Saint-Pierre d'Issis.
Voilà. La mythique ferme de Saint-Pierre.
La mythique, ouais, comme tu dis.
Voilà, ah. C'est ma salle d'extraction.
Mais déjà, ça sent bon le miel.
Ouais, ça sent pas le déterminant un peu, de toute façon.
Ouais.
Bah, l'idée, c'est quand je suis installé, là, que pour une extraction, c'est je ramène mes piles de hausse que je mets dans une pièce plus loin, là. Une toute petite pièce dans laquelle je mets les déshumidificateurs, comme je te disais tout à l'heure. Et bon, bah, je ramène les hausses avec les petits chariots, les unes, enfin, au fur et à mesure de mes besoins dans l'extraction. J'installe ça sur les parpaings là, et c'est un bac à désoperculer.
D'accord.
Et du coup, mais t'as vu chez le boulon, tu enlèves cette...
Tu racles là.
Ouais, cette feuille fine qui se trouve sur les cadres.
Ouais.
Qui ferme les alvéoles quand le miel est bien concentré, quoi.
Oui, d'accord. C'est les abeilles qui le fabriquent, ça.
Ouais, qu'elles sécrètent de la cire.
La fameuse cire que certains récupèrent pour l'entretien des meubles.
Voilà.
D'accord.
C'est assez fou parce que la cire, c'est un mélange d'hydrocarbures, d'une dizaine d'hydrocarbures naturels. En gros, les abeilles produisent un pétrole. C'est assez marrant quand même.
Ouais, dis donc.
Et du coup, une fois désoperculé, le cadre passe là-dedans avec ce...
Avec cette passoire ?
Non, avec ça là qui va à l'intérieur.
D'accord.
L'extracteur.
Donc c'est une espèce de cylindre avec des dents crantées.
Tu mets dedans là avec le moteur qui est là.
C'est la centrifugeuse, ça.
Centrifugeuse et qui tourne, qui extrait le miel.
D'accord, en inox. Penché pour que le miel puisse s'écouler.
Non, là il est penché juste à la fin de l'extraction et puis quand je le mets à sécher après l'avoir lavé, c'est goûte vite.
Ok.
Et voilà, une fois passé là, grosso, je le monte dans des bidons alimentaires qui sont là sur. En hauteur, parce qu'une fois que tu t'installes pour faire ta mise en pot, ben, pour avoir un truc ergonomique un peu bien. Quoi.
Et d'une ruche, tu sors à peu près combien de miel ?
Ça dépend des années. Ça dépend des années. L'année dernière, une bonne année, j'ai fait plus de 20 kilos par ruche. Ouais, c'est sûr. Après, je vois par rapport. Enfin, avant, ils faisaient facilement ça, sans transhumer et tout, je crois. Enfin, il me semble. Après, on sait pas. Peut-être les anciens nous disent, nous, c'était facile à l'époque. En
fait, ils se vantent.
Je sais pas. Ouais, je sais pas. Non, ça peut être fou. Hein. Une mielée comme le tournesol, là. Le tournesol, j'y vais à la fin du châtaignier. Donc, je transhume généralement entre le 13 juillet et le 18 juillet. À peu près tous les ans, comme ça. Donc, transhumer, déplacer les ruches d'ici vers le tournesol. Et sur le tour de sol, donc je vais dans l'Auragais chez un agriculteur en bio. Mmh. Et l'Auragais, c'est des sols avec des nappes phréatiques à fleurs de sol. Quoi. Et du coup, le tournesol peut donner très facilement. Et il y a des records à la ruche qui sont hallucinants. Il y a des gars, ils ont fait jusqu'à 150 kg sur une ruche sur une période de 3 à 4 semaines de floraison.
150 kg ouais. Mais quand tu portes la ruche
Non, mais il ne la porte pas là. D'accord. Enfin, la ruche, tu l'amènes avec une hausse qui est vide parce que tu viens de récolter, par exemple, dans mon cas, le châtaignier. Tu amènes ta ruche avec une hausse vide. Et enfin, tu amènes tes ruches avec hausse vide et tu vas récolter à la fin de la floraison du tournesol. Et du coup, tu remets une hausse vide et tu remballes les ruches avec une hausse vide. Ah oui, sinon, en termes de. Déjà, même à la sortie du châtaignier, les ruches sont très lourdes. Hein. Et au retour du tournesol aussi. Ah.
Et alors, tu parles que tu vas chez les bio, tu es certifié bio ?
Alors, moi, ouais, je suis certifié bio.
D'accord.
Pas depuis le début, je sais plus, peut-être 2012. Mais on s'est mis. Moi, je ne suis pas un adepte de toute la logique agricole de certification, de transparence, machin et tout. Moi, je sais ce que je fais. Les gens, s'ils n'ont pas confiance, ils n'ont qu'à aller voir ailleurs, j'ai envie de dire. Mais on l'a fait parce que bêtement, on avait tous les coûts du bio, parce qu'on fait par principe, on faisait les choses en bio, et sauf qu'on avait tous les coûts du bio, mais sans les avantages, c'est-à-dire ceux de la commercialisation, ou par exemple le crédit d'impôt à l'agriculture biologique, qui est un petit truc, mais qui fait quand même du bien, là, surtout les années mauvaises. Ouais.
Et donc là, tous les pots qu'on voit, là, il y a 4 cagettes de pots.
C'est là, t'as une pile qui est mon miel de thym du rougier de Camarès que j'ai récolté il y a 15 jours, 3 semaines. Uh-huh. Et celle-là, c'est ma misérable récolte de miel du Larzac de cette année.
Ah oui, une cagette.
Ouais, 35 ruches, 37 kilos.
Oh. Ouais.
Mais après, j'ai ramené les ruches au moment où le serpolet démarrait, mais parce que je préfère faire le châtaignier ici à domicile. Ah. Je vais continuer à avoir les ruches pendant plusieurs semaines, loin. Je fais en termes de trajet et tout. Je vais faire autant de miel ici que là-bas. Là-bas, c'était pour les requinquer. Je vais me douter que, vu l'état de mes ruches, je ferai peu de miel.
Donc voilà pour l'atelier actuel et provisoire.
Ouais. C'est une belle pièce.
Ouais. Mais... Avec un beau cactus.
Vas-y.
Ok, merci. Tiens, mais je suis catastrophe aujourd'hui. Oh.
T'inquiète.
On prend mon camion, tu veux aller voir des ruches ?
Ouais.
Allez, si t'as le temps, enfin, je
sais pas. Hein,
moi, je m'en fous, j'ai rien prévu.
C'est loin ou quoi ?
6 km.
Bon, ça va être vite fait.
Les plus proches. Ouais, c'est vite fait. Okay. On peut prendre que mon camion si tu veux.
Allez.
Et je te repose là après.
D'accord, ça m'en va. Donc là, on est au prix. Il y a combien de ruches ici à peu près ?
41, mais il y en a une qui est morte dans le coin là-bas. Il y en a 42. Il y en a 38 avec une reine en ponte. Et 3 qui sont des essaims que j'ai fait il n'y a pas longtemps, donc je vérifierai que la ponte. Enfin, que la fécondation s'est bien faite d'ici 3 semaines, un truc comme ça.
Ici, on est toujours sur la commune de Camarès. On a passé.
Non, je crois qu'on est. Là, on est Brusque, on est à la frontière de Brusque et Fayette.
Hop oh. Ah putain, ça y est, c'est parti. Me suis fait piquer.
C'est où ? Ok. Fais voir, peut-être t'as pas le. Non, je vois pas de là. Ah, là ? Non. Ah, si, il est. Ah merde, non, viens, on se casse.
C'est raté.
Ouais, c'est raté.
Toi aussi, t'as fait piquer ?
Non, elle a fait ce soir. Ouais, j'avais assis. T'avais le dard.
Il y avait le dard.
C'est ça, il est.
C'est stressant après. Hein. Après, t'as le moindre truc.
Bon, okay. Bon ben voilà, on est devant le camion. Là,
voilà. c'est un peu foiré. On s'en va, mais en fait, je veux que je te prends. Oh putain. Bon, eh ben, la visite des ruches ne se fera pas. Les abeilles, elles sont un peu énervées de nous voir. Ah ben, j'aurai un petit souvenir. Donc, il revient avec le camion dans lequel nous sommes venus. Et pour la visite, ça sera stop. Ouais, ça va aller. Hein.
Elle t'a piqué la deuxième ?
Non. Je crois pas.
comprends.
Donc, merci Gaillet pour cette belle visite.
Malgré ses péripéties apicoles, remercions tout de même Guillem pour son accueil. Ce programme est diffusé le mardi à 8h10, le jeudi à 18h et le dimanche à 14h. Alors rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.